Chapitre 12. La conspiratrice. Revenant sur nos pas, ramenant le lecteur à ce coquet logis de la rue Cassée, où nous avons vu pénétrer le maréchal d'Ancre, vers le moment où le chevalier de Capestan tombait évanoui dans le réduit où il venait d'être muré. Dans le même instant, la marquise d'Ancre apparaissait à l'encoignure du jardin des Carmes et descendait la petite rue déserte. Elle passa devant la maison sans s'y arrêter. Mais près de cette porte que venait de franchir son mari, elle eut un tressaillement nerveux et son visage refléta une haine sauvage. « Il l'a mise là » murmura-t-elle avec une sorte de sanglot. « Il l'aime. J'en avais l'affreux pressentiment. Maintenant, j'en suis sûre. Il aime cette Gisèle. Oh, mon Concino, et moi ! Tu ne vois donc pas que je souffre et que je t'adore ? Tu ne vois donc pas que pour supporter Maria, je dois étouffer les plaintes de mon cœur sous les cris de mon ambition ? Et qu'est-ce que mon ambition sinon ta gloire, ta grandeur, ta fortune que je rêve si haute que le monde étonné se demandera quelle main puissante a pu, de si bas, te faire monter là où montent seuls les élus de Dieu ?» Elle atteignit le carrefour du vieux colombier et s'y arrêta, interrogeant avidement du regard les voix qui aboutissaient là. Léonore à Galigaille attendait quelqu'un. Des pensées terribles tourbillonnaient sans doute dans sa tête. Elle tremblait convulsivement et murmurait « Viendra-t-elle ? Sainte Madone, fais qu'elle vienne et je te promets une statue tout entière fondue dans l'or pur. » Concino Concini était dans le petit hôtel de la rue Cassée. Dans le vestibule, veillaient en magnifique nubien, les jambes et les bras nus, la tête d'un beau noir d'ébène émergeant d'une tunique de soie blanche. La large lame effilée d'un cimetière pendait à sa ceinture. « Nul n'est venu ?» demanda Concini. Le noir secoua la tête. « Et si quelqu'un avait essayé d'entrer ?» Le noir eut un sourire qui découvrit ses dents éblouissantes et montra son cimetière. « C'est bien, dit Concini, tu es un bon serviteur. » Le noir s'inclina, saisit la main de son maître et la baisa. « Tu m'es donc bien dévoué, toi ?» Le noir se mit à genoux. « Oui, maître, dit-il simplement. » Mais en lui-même, il ajouta « Presque autant qu'à ma maîtresse Léonora. » Concini monta un escalier couvert de tapis épais. Le luxe effréné des grandes courtisanes régnait dans cet étrange intérieur. Concini avait dépensé des trésors d'imagination pour faire à ses amours un cadre de volupté savante. Il est juste d'ajouter qu'il avait dépensé aussi l'argent de toute une année d'impôts. À l'antichambre du premier étage veillait une femme, comme dans le vestibule du rez-de-chaussée veillait le Nubien. Concini s'avança sans parler à cette femme. Il tremblait. Brusquement, il poussa une porte, entra et vit Gisèle debout, si calme, si pareille aux vierges guerrières qui n'ont rien à redouter, une telle sincérité dans ses yeux où il n'y avait ni crainte, ni défi, ni pas même du dédain, qu'il s'arrêta, pâle comme un mort. Il s'avança. Elle n'eut pas un geste. Seulement, elle le tenait sous son regard. Il marchait vers elle, trébuchant, haletant, défiguré par la luxure. Et de son regard, à elle, peu à peu, jaillit une flamme qui s'aiguisa, flamboya, s'épandit en nappes puissantes, et elle fut alors semblable à quelque intrépide dompteuse en face du fauve. Il s'arrêta avec un sourd rugissement. Puis, tout à coup, la tête basse, les mains tremblantes étendues vers elle, la voix grelottante. « Écoutez, il faut que vous sachiez à quel point je vous aime. Je ne vous demande pas pardon de vous avoir saisi par ruse et violence. Si vous m'échappiez, je serais capable de ruses plus lâches et de violences plus hideuses pour vous saisir à nouveau. Voici ce que je vous offre. Je suis riche à l'excès. Je puis acheter une principauté en Italie. Je puis forcer le pape à briser les liens du mariage qui m'unissent à Léonore. Libre et prince, un prince puissant, je vous jure, et dont il sera parlé, un prince qui, s'il est soutenu dans la vie par une femme telle que vous, peut réaliser le rêve de Machiavel, reprendre les conquêtes de César Borgia au point où il les a laissées et devenir le maître de l'Italie. prince donc parmi les plus redoutables, riche parmi les plus opulents, libre, je vous offre de devenir ma femme. Un seul mot de vous me suffit. Si vous dites oui, vous sortez d'ici à l'instant. Moi, ivre du bonheur promis, capable alors de soulever un monde, je pars, je fais élever votre trône, et quand tout est prêt, dans 3 mois, dans 6 mois, vous venez rejoindre votre fiancé, Concino, duc et prince de Ferrare, en attendant mieux, et vous recevez de mes mains, en même temps que l'anneau nuptial, la couronne ducale, bientôt remplacée sur votre tête par la couronne royale. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et vous, qu'avez-vous à me répondre ? Gisèle, petite fille du roi Charles IX, garda l'attitude pétrifiée de ces hautaines princesses de jadis, lorsqu'elle recevait le placé du condamné, le recours en grâce. J'ai à vous répondre ceci, que vous m'offrez une richesse volée, que la principauté sera achetée avec de l'argent volé, que la couronne sera faite d'or volé. Vous m'offrez donc d'unir ma vie à celle d'un larron. Allons, monsieur, pour séduire une fille telle que moi, il faut de moins pauvres inventions que le vol, le rapt et la rapine. » Elle se tut. Concini grinça des dents et se courba, écrasé. Presque aussitôt, il se ressaisit et se redressa un peu. « N'en parlons plus, » dit-il en soufflant avec effort. « Je suis un voleur, soit. Je fais mon métier. Je vous vole. Je vous prends comme je prends l'or qui paiera ma principauté. » Avant de mettre la main sur vous, j'ai encore à vous dire, votre père est en mon pouvoir. Il avoue qu'il a conspiré contre la vie du roi. Demain commence le procès. Dans 15 jours, la tête de votre père tombera. Dites un mot et je vous conduis à la Bastille et vous-même, ce soir, vous ouvrez la porte du cachot d'où le duc d'Angoulême ne doit sortir que pour marcher à la place de Grève. Un long tressaillement agita Gisèle. Un frisson parcourut les plis rigides de la statue. Mais sa voix plus faible, comme plus éloignée, demeura pourtant d'une sérénité tragique, et elle dit « Mon père mourra donc, mais le duc d'Angoulême n'aura courbé la tête que sous la hache du bourreau et non sous le poids de l'infamie. » Cette fois, Concini releva tout à fait sa tête flamboyante de rage. Quoi ? Était-il donc abject au point que cette fille préféra condamner à mort son propre père plutôt que d'accorder l'aumône d'un baiser à l'homme qui implorait, menaçait en vain. Il bondit à la porte qu'il ouvrit. À son signe, la femme de l'antichambre accourut. Et il rugit. « Qui a-t-on amené ici ce matin ?»« Une femme, une folle, qui se nomme Violetta. » « Ma mère !» cria au fond d'elle-même Gisèle, vacillante de terreur. « Où l'a-t-on mise ?» continua Concini, de cet accent rauque de fauve en démence. « Là-haut, monseigneur, au-dessus de cette chambre. »« Ma mère !» râla Gisèle, pantelante. « Belphégor !» hurla Concini. Gisèle entendit comme en un rêve un pas rapide et, l'instant d'après, vit se dresser dans l'encadrement de la porte le Nubien qui apparut semblable au démon dont il portait le nom. « Belphégor, gronda Concini, tandis que son regard sanglant surveillait Gisèle, tu vas monter là-haut. » Gisèle se sentit devenir folle. Elle eut la foudroyante intuition que quelque chose allait se passer qui dépasserait les limites de l'horreur. « Oui, maître, » dit Belphégor. « Tu t'arrêteras devant la porte, » continua Concini d'une voix hachée, « et tu attendras que je te crie, va. »« Oui, maître. » Et quand j'aurai crié « Va !», tu entreras. » Une sorte de gémissement funèbre, atrocement triste, s'éleva. Et Concini vit Gisèle qui s'abattait sur ses genoux, les yeux hagards, les traits décomposés par l'épouvante. Il sourit et il continua. « Alors, tu saisiras la femme, tu entends ? Tu la saisiras par les cheveux, d'un seul coup de ton cimetière, comme on fait aux condamnés en ton pays. Tu feras voler sa tête, tu entends ? Et cette tête, eh bien, cette tête, tu la porteras ici et tu la remettras à cette fille que voici. » Une clameur effrayante jaillit des lèvres de Gisèle. Elle se releva d'un violent effort de tout son être et s'élança, ou du moins voulut s'élancer, crut s'élancer vers Concini et Belphégor. En réalité, elle demeura rivée à sa place, les yeux exorbités, le cerveau chaviré dans l'horreur, impuissante à marcher, impuissante à réfréner la plainte funèbre qui fusait de ses lèvres. Belphégor avait disparu. Belphégor montait vers l'étage supérieur. Concini essuya la sueur glacée qui ruisselait sur son visage. Il marcha sur Gisèle. Sans la toucher, il se pencha sur elle. « Eh bien, que décides-tu? Dis, parle, ou bien fais un geste. Es-tu mienne? Ton père vit, ta mère vit, tu es princesse. Quoi? Que dis-tu? Tu te refuses? Tu assassines donc ton père et ta mère? C'est toi, toi seule qui les frappes. Dans une minute, tu pourras demander pardon à la tête sanglante de ta mère. » Elle se sentait mourir. Elle ne savait plus où elle était, ni qui était cet homme, ni ce qu'il voulait. Dans le vertige d'épouvante surhumaine, elle luttait contre une abominable, une infernale vision. Et c'était le Nubien qui jetait à ses pieds une tête exsangue. Brusquement, elle tomba tout d'une pièce, toute raide, les yeux fermés, sans connaissance. Et, chose affreuse, de ses yeux clos, de ses yeux d'agonisante privés de tout sentiment, les larmes alors se mirent à jaillir, des larmes silencieuses qui roulaient une à une sur les joues décolorées. Concini se mit à genoux, la saisit par les épaules, la secoua frénétiquement et rugit. « Parle ! Oh, tu parleras ! Dis ! Dois-je crier à Belphégor d'entrer là-haut ? » Il oublia qu'il venait de jouer une épouvantable comédie et que le duc d'Angoulême était libre et qu'il n'y avait pas de Violetta dans la chambre du haut. Il l'oubliait vraiment. Il se rua vers la porte pour crier « Va !» et il demeura pétrifié. À cette porte, il y avait deux femmes. L'une, c'était Léonore à Galigaille, marquise d'Ancre, sa femme. Et l'autre, c'était Marie de Médicis, reine-mère, sa maîtresse. Marie de Médicis, mère de Louis XIII, la reine, que la marquise d'Ancre appelait tout simplement Marie, venait de franchir la quarantaine. C'était une femme d'une forte beauté, dont l'âge commençait à peine à empâter les traits du visage et les lignes du corps. Ce corps avait eu naguère la souple fermeté des statues antiques. Ce visage avait eu la régularité un peu froide des beautés florentines. Mais l'un et l'autre conservaient, soit par une grâce de la nature, soit par les efforts de l'art, une sorte de splendeur qui s'éloignait de plus en plus de la grâce féminine pour se rapprocher chaque jour de sa majesté. Elle aimait les arts, elle avait le sens des belles choses. Ce n'était pas un esprit créateur, elle ignorait la peinture, mais excellait à graver d'après le modèle. Froidement égoïste, résolue à prendre de la vie tout ce qu'elle pouvait lui offrir de bon, calculatrice jusque dans ses passions, elle était pourtant dominée par un amour qui l'étonnait elle-même. Elle était parvenue en effet à cette période de la quarantaine où, la nature accomplissant chez les femmes une dernière évolution, certaines d'entre elles deviennent capables de toutes les folies. La folie de Marie de Médicis à 40 ans, c'était Concini. Léonore à Galigaille, debout près de la porte, dévorait du regard Gisèle. Et ce regard noir, d'une sinistre acuité, ce regard glacial, c'était une condamnation à mort. Léonore a regardé Gisèle, Marie de Médicis regardait Concini. Concini, avec cette admirable souplesse qui faisait de lui l'égal des plus profonds diplomates, le maître des plus grands comédiens, s'était ressaisi en quelques instants. Il s'inclinait devant la reine et murmurait « Et quoi, est-ce bien votre majesté que je vois ici ? N'y suis-je donc pas déjà venu ?» dit froidement la reine en prenant à peine la précaution de baisser la voix pour ne pas être entendue de Léonore. Mais elle eût pu parler haut. Léonore semblait avoir oublié la reine et Concini. Elle les avait peut-être oubliés vraiment. Elle s'avançait lentement vers Gisèle. Et Léonora se mettait à soigner Gisèle, à lui faire respirer des cassolettes, à lui humecter les tempes. « Belle, oh si belle! Et moi, si laide! Laide! Je suis laide et c'est là le poison de ma vie. Celle-ci est belle et Concino l'adore pour sa beauté. Eh bien, je la hais la beauté, moi. Je veux ma part d'amour et ma part, c'est Concino. Malheur à qui me l'enlèvera. Celle-ci mourra, comme est morte Mademoiselle de Ponce, comme est morte Madame de Givernois, comme est morte cette bourgeoise de la rue Saint-Martin, comme meurent l'une après l'autre toutes celles qui ont connu le baiser de Concino, en sorte que ces baisers distillent du poison et que son amour sent la mort. Voilà ce que songeait Léonora Galigai, tandis que Gisèle revenait au sentiment des choses et ouvrait les yeux. Le premier mot de Léonora fut « Rassurez-vous, mademoiselle, votre père n'est pas arrêté, votre mère n'est nullement prisonnière en ce logis. Monsieur le maréchal d'Ancre a menti. » D'un bond, Gisèle fut debout. La vie lui revint à flot, elle saisit les deux mains de Léonore, qu'elle étreignit convulsivement dans les siennes. Et, transfigurée, radieuse, éclatante de beauté, elle murmura ardemment « Votre nom, madame, votre nom, oh vous, qui me sauvez du plus effroyable désespoir, votre nom, que pas un jour ne se passe où je ne le bénisse au fond de mon cœur. » « Je suis la marquise d'Ancre, » répondit Léonore avec une terrible simplicité. Gisèle frissonna, un froid glacial la pénétra jusqu'aux moelles. Elle recula d'instinct. Alors son regard se croisa avec celui de Léonore et elle comprit qu'elle était condamnée. Elle se détourna et alors elle vit la reine qu'elle reconnut à l'instant. En deux pas, elle fut devant Marie de Médicis et, redevenue vaillante, intrépide, puisqu'elle n'avait plus à craindre que pour elle-même. « Madame, prononça-t-elle avec un accent d'adorable dignité, vous êtes la mère du roi qui représente la justice. J'en appelle à vous de la contrainte qui m'est faite. »« Justice sera faite, » dit Marie de Médicis, d'un ton que Catherine, la grande Catherine de Médicis, eût admiré comme un modèle de mortelle ironie. « Monsieur le maréchal m'assure qu'il a dû vous faire saisir et amener ici pour vous interroger au sujet d'une conspiration. C'est bien cela, maréchal ?» Concini s'inclina. Il vacillait. Il hurlait de rage et de douleur. Il était victime de l'effort qu'il faisait pour demeurer calme et souriant comme à son ordinaire. Et il souriait en effet. « C'est donc moi qui interrogerai cet enfant, » reprit Marie de Médicis. Et s'il y a lieu, les juges poursuivront l'affaire. Mademoiselle, il faut que vous me suiviez au Louvre. » Concini chancela. Un soupir gonfla sa poitrine. Ses yeux devinrent hagards. Un instant, il se demanda s'il n'allait pas poignarder sa femme. « Ah, madame !» s'écria Gisèle. « Au Louvre, à la Bastille, où il plaira à votre majesté, pourvu que ce soit loin d'ici et de cet homme. » « Venez donc !» dit la reine qui, aussitôt, sans jeter un regard à Concini, foudroyé, se retira lentement. Gisèle s'avançait. Léonore la saisit par le bras et lui glissa à l'oreille. « Vous me devez plus que la vie. En échange, je ne vous demande qu'une chose, ménagez-moi une entrevue avec le duc d'Angoulême dès que vous serez libre. Me le promettez-vous ? » ?»« Je vous le jure, madame, » dit doucement Gisèle. Et elle passa devant Concini, qui, à son approche, frémit, se redressa et murmura « Adieu !» Gisèle avait l'âme d'une guerrière. Cette âme, à ce moment, se révolta. « Vous vous vantez, » dit-elle, « il est impossible que nous nous disions adieu. J'ai juré à ma mère, brisée par vous qui vouliez la flétrir, je lui ai juré de vous tuer, et je vous tuerai. » Sinon de ma propre main, du moins par celle de l'homme dont je porterai le nom, l'homme que j'aime. » Et elle passa. Concini sentit la rage se déchaîner en lui, tous les démons de la jalousie se mirent à hurler dans sa tête. Il eut un mouvement furieux pour s'élancer sur Gisèle et l'étrangler. Mais il s'arrêta, pantelant, hagard, foudroyé par un regard de Marie de Médicis, qui se retournait à ce moment et lui disait « « Monsieur le maréchal, vous voudrez bien m'apporter au Louvre un rapport sur la conspiration que vous dénoncez et nous tiendrons conseil. » L'instant d'après, la reine et la fille du duc d'Angoulême avaient disparu. Léonore, silencieuse, pareille à un spectre, s'était glissée dans l'angle le plus obscur de cette pièce. Ses yeux demeuraient fixés sur son mari. sa pensée éperdue cherchait un moyen de le reconquérir ou de le conquérir. Car jusque-là, il ne l'avait jamais aimée. Et elle l'aimait, elle, de toutes les forces de son être. Elle souffrait atrocement. Et elle n'avait même pas le droit de se plaindre. Personne à qui confier sa peine, car elle était orgueilleuse. Et elle se débattait, seule dans la vie. Elle se consumait dans cette lutte étrange, fantastique et terrible, la conquête de son mari. Tout ce qu'elle disait, faisait, pensait, aboutissait là. Tous les actes extérieurs de sa vie, son âpre ambition, sa rude soif de l'or, tout cela n'était qu'un moyen et non un but. Le vrai but, c'était d'être aimé enfin par Concini.